Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Marc Hainaut. Donc je suis Marc, le type s'auto-présente, évidemment c'est moi, je suis avec Valentin Gore, bien évidemment. France Gouttière vient de nous quitter, dans quelques instants nous accueillerons Xavier Hofer, criminologue, mais tout d'abord, cher Valentin, une nouvelle assez amusante qui vient de tomber, le nouveau président du Conseil d'État, Didier Guillaume, un sous-préfet, un préfet, très proche d'Emmanuel Macron, on a presque envie de dire l'entreprise de verrouillage continue.
Oui, alors je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Marc, mais vous avez raison. Après la Cour des comptes avec Madame Montchalin, après le Conseil constitutionnel, évidemment, M. Ferrand, quantité d'autres instances, on ne pourra pas les citer toutes, jusqu'à l'assurance maladie que dirige Marguerite Cazeneuve.
On peut citer aussi Emmanuel Moulin, la Banque de France, Stéphane Séjourné, la Commission européenne, Barbara Pompili, ambassade déléguée à l'environnement, Clément Beaune au commissariat au plan, Sarah El Haïry à l'enfance, Emmanuel Wargon à la Commission de régulation de l'énergie, Jean Castex à la SNCF, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, et enfin bref.
Que de talent,
Et tous ces gens ont un point commun.
Oui, enfin, outre leur talent, hein, j'insiste leur vraiment sur ce
aussi,
talent
et
leurs compétences, ils ont effectivement pour point commun d'avoir été ministre ou très proche d'Emmanuel Macron. La personne que vous citez, Marc Guillaume. Qui a été alors c'est vrai que les Français le connaissent pas, pourtant c'est un homme qui a eu une influence extraordinaire sur leur vie, parce qu'il a été effectivement, alors il a commencé à la fin du mandat de François Hollande dans une instance qui est très peu connue, qui est le secrétariat général du gouvernement, qui est un endroit très stratégique, une véritable tour de contrôle de l'administration. Le secrétaire général du gouvernement, c'est le premier fonctionnaire de France, c'est lui qui met en application et qui coordonne la politique de tous les ministères. Ensuite, cet homme est devenu préfet de la région Île-de-France, où il a notamment organisé avec Laurent Nouniez à l'époque les Jeux Olympiques de Paris. Puis là, nous avons appris effectivement il y a quelques jours, hier ou avant-hier, qu'il devenait vice-président du Conseil d'État. Vice-président, c'est le terme officiel, puisque le Premier ministre est censé le présider. Mais dans les faits, il est président du Conseil d'État. Là aussi, sorte de boîte noire de la République, où on sait bien que se sont échoués beaucoup de projets de réformes. Est-ce que Bruno Retailleau dénonce sous le mot d'impossibilisme, c'est-à-dire le fait que quand vous essayez de bousculer un peu les choses avec des lois qui concrètement permettent de changer les choses, le Conseil d'État retoque tout ce qui est en mesure, on l'avait vu par exemple avec la loi immigration de Gérald Darmanin, de changer les choses concrètement. Donc c'est un poste absolument central.
C'est fou parce que Emmanuel Macron était le président de la République En Marche, patron de la République En Marche avant d'être président de la République. Il a fait de la disruption et du progrès, son credo, il s'en est de la marche en avant, et jamais quelqu'un n'aura autant paralysé les institutions. C'est une forme d'immobilisme agité, Emmanuel Macron, outre l'aspect verrouillage, bien évidemment.
Oui, c'est l'immobilisme en marche. Alors ça, c'est toutefois assez courant, hein. On se souvient de François Mitterrand qui, après avoir dénoncé le coup d'État permanent, s'était formidablement bien fondu dans les habits de la Ve République. Force est de croire qu'il en va de même pour Emmanuel Macron, qui c'est même assez caricatural. Parce que là, franchement, ça devient, vous l'avez dit, jusqu'à la Banque de France, le Conseil d'État, c'est plus classique. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie de placer ces hommes un peu partout, sans doute, parce que Emmanuel Macron n'a pas l'intention d'aller élever des fraises à partir de mai 2027. Peut-être a-t-il des envies de poursuivre cette vie politique. C'est vrai qu'il va quitter le pouvoir à l'âge où quasiment tous les présidents de la République n'étaient pas encore arrivés à l'Élysée.
Vous parlez de pouvoir, de réseau et de puissance, Valentin Gore. Cela tombe bien, puisqu'on va rester sur ce sujet-là. Nous accueillons dans un registre un petit peu plus inquiétant, puisque nous accueillons Xavier Hofer, criminologue. Bonsoir Xavier, est-ce que vous nous entendez bien ?
Moi, je vous entends parfaitement.
Parfait, nous aussi. Xavier Hofer, donc vous êtes criminologue, on l'a dit. Vous êtes auteur, entre autres, de ce livre passionnant sur l'affaire Epstein aux éditions du Cerf, L'âme damnée de la troisième culture. Alors pourquoi, on pourrait tenter de dire, pourquoi reparler de l'affaire Epstein aujourd'hui, puisque on a l'impression que c'est un petit peu passé, en réalité. D'abord parce qu'elle n'a pas encore livré tous ses secrets, ensuite parce que les rumeurs les plus folles circulent encore. Surtout, nous avons appris aujourd'hui, Xavier Hofer, d'après le New York Times, un juge fédéral américain a en effet divulgué ce mercredi ce qui semble être une lettre de suicide écrite par le criminel Jeffrey Epstein, retrouvé après une tentative ratée quelques semaines avant sa mort réelle, celle-ci, dans une prison de New York. Alors bien que le document n'ait pas été authentifié, et c'est peut-être là aussi qu'il y a un sujet, comme provenant de Jeffrey Epstein, sa publication intervient alors que continue d'alimenter l'idée selon laquelle il aurait été assassiné afin d'étouffer un scandale impliquant des personnalités publiques. En tout cas, c'est la raison qu'aurait qu'à invoquer la justice américaine pour la divulgation de ce document. Voilà ce que dit cette lettre manuscrite pour nos auditeurs. C'est un vrai bonheur de pouvoir choisir le moment où l'on dit au revoir. Est-il écrit sur ce document? Que veux-tu que je fasse? Que je me mette à pleurer? Pas drôle, n'en vaut pas la peine. Peut-on lire, souligner en guise de conclusion? Xavier Hofer, que pensez-vous de cette information, tout simplement?
Alors, je vais répondre à tout ça et en détail, comme vous l'imaginez, mais auparavant, je voudrais dire deux mots sur les échanges que vous venez d'avoir, là. C'était sur le fait que M. Macron...
On peut revenir dessus.
Voilà. M. Macron est un des plus fervents partisans en Europe avec M. Starmer en Grande-Bretagne, avec M. Merz en Allemagne et avec Mme von der Leyen au Parlement et à la direction de l'Union européenne, pardon, au secrétariat de l'Union européenne, au Conseil des ministres, tout ce que vous voulez, de la doctrine néolibérale. La doctrine néolibérale est assez mal connue parce qu'elle fait tout pour qu'on ne la connaisse pas. Ceux qui prônent cette doctrine restent dans leurs habits anciens, c'est-à-dire que M. Starmer fait semblant d'être travailliste, que M. Macron fait semblant d'être progressiste, que M. Merz fait semblant d'être conservateur et que Mme von der Leyen fait semblant d'être, je ne sais pas trop quoi, prussienne ou Dieu sait quoi, mais en réalité, ils défendent tout le même système, le système libéral qui prétend que le peuple est incapable de diriger quoi que ce soit, qu'il ne fait que des sottises et que donc il doit y avoir un gouvernement des élites dans lesquelles les places sont cooptées. Donc, à l'heure actuelle, Monsieur Macron fait ce qu'il a été mis en place pour faire, c'est-à-dire coopter ses clones. C'est absolument pas, il n'y a pas lieu de s'en étonner ni de s'en indigner.
Et après Xavier Hofer, pardon de vous couper, mais cette forme de copinage, c'est-à-dire de nommer ses proches, de remercier ses proches en les nommant à des postes clés pendant une fin de quinquennat, j'ai envie de dire, ça s'est toujours vu. Peut-être que là, ça se fait dans des proportions un peu plus importantes.
Non, ce n'est pas un changement de degré, c'est un changement de nature, à savoir que c'est l'essence du programme en question est de faire en sorte que le peuple, qui n'est capable que de populisme, c'est-à-dire que de sottises extravagantes et outrées dans un sens ou dans un autre, doit être privé de toute espèce de pouvoir concret et que le pouvoir doit être définitivement mis entre les mains de groupes ou de systèmes extra-parlementaires et sortis donc du domaine du vote, qui sont les cours constitutionnels, qui sont le Conseil d'État, qui sont tout ce que vous voulez. Le pouvoir doit résider là. Voilà, donc il faut que vos auditeurs et téléspectateurs soient conscients de cette dimension-là. Ça n'est pas quelqu'un d'un peu olé-olé qui fait plaisir à ses copains, c'est systématiquement fait partout. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'ils le font assez efficacement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun des précités, on ne parle pas de Mme von der Leyen, qui n'a été élue par personne au niveau européen, qui est élue par ses cooptée par ses copains,
mais du PPE,
Monsieur Merz, ni Monsieur Starmer, ni Monsieur Macron ne dépassent 20% dans les sondages ou peu ou près. Et on va voir les élections locales en Grande-Bretagne, ce qu'elles vont donner aujourd'hui, et sans doute ça sera un grand coup de pied aux fesses pour Monsieur Starmer, un de plus. Donc voilà.
Mais en tout cas, un vent
parce que ça n'est pas Voilà, c'est délibéré
C'est
et
pas anodin.
systématique, c'est le fond de leur doctrine.
Pour vous, ça va au-delà, effectivement,
Maintenant.
de la tradition républicaine de recasage. Alors maintenant, sur cette, on ferme l'incise, Xavier Hofer. On revient juste, pour rappeler brièvement à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, la justice américaine sort donc une lettre présentée comme de la main de Jeffrey Epstein, même si elle n'a pas encore été officiellement authentifiée, une lettre de suicide, tout simplement, qui aurait été écrite quelques temps avant une première tentative de suicide, plusieurs semaines avant celle qui aurait donc conduit à la mort du milliardaire criminel, du criminel sexuel. Concrètement, est-ce qu'on peut y croire à cette... ça relance un petit peu la thèse du suicide, et on sait que cela fait débat, on sait que vous avez travaillé dessus, Xavier Hofer. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce que la publication de cette lettre rebat un petit peu les cartes, en quelque sorte?
Alors, d'abord, deux choses. À partir du moment où, pendant à peu près 1 mois et 10 jours, Jeffrey Epstein est mis en prison, donc dans une maison d'arrêt, Manhattan Correctional Center, qui se trouve à Manhattan, comme son nom l'indique, et où il passe à peu près un peu plus d'un mois, il fait deux, ouvrez les guillemets, tentatives de suicide. Et les deux sont à peu près 10 jours l'une de l'autre. La première ratée et la deuxième... quoi que s'il soit passé cette nuit-là, le deuxième essai de se donner la mort ou qu'on lui ait donné la mort, il lui est fatal dans la nuit du 9 au 10 août donc 2019. Là, vous avez une première tentative. Pendant les jours qui précèdent la tentative en question, il est passé 10 fois devant les psychiatres de la santé. Il est dans une unité qui est spécialement... préparé pour mettre les gens qui risquent d'être suicidaires pour une raison ou pour une autre. Donc, on lui a demandé 10 fois s'il voulait se donner la mort. Il a répondu que non, que sa religion lui interdisait, qu'il avait peur de se faire mal et donc il était assez froussard et qu'il avait déjà peur des piqûres. Alors, se suicider, il n'en avait pas trop envie. Et donc, là-dessus, il y a une tentative extrêmement bizarre puisque, naturellement, ce qui est central à la sécurité d'un lieu de détention pénitentiaire, c'est son système de vidéocaméra, que le système en question, qui pour le Manhattan Correctional Center comprend 1200 caméras de surveillance, a été vérifié lors d'un audit quelques mois auparavant, et que là, seule la caméra qui est face à la porte de sa cellule tombe en panne le jour en question et dans l'heure décisive.
Donc il y avait 1199 toutes les caméras, les 1200 caméras moins une. Dans tous
voilà,
les cas.
Exactement. Et donc, si vous voulez, si vous circulez en voiture sur la Nationale 1 à proximité de l'aéroport de Roissy, il y a autant de chances pour que vous ramassiez un Boeing sur le coin de la figure, quoi, à peu de choses près, passant à côté de l'aéroport. Donc c'est un tésimale, et donc c'est déjà bizarre. En plus de ça, cette note que j'ai lue, bien entendu, ressemble plus à un cri de colère qu'à une lettre d'adieu. Et troisièmement, elle n'efface en rien. Je vous ai cité le coup de la caméra qui était tombée en panne, mais le sort s'acharne, puisque la deuxième fois où il va cette fois-ci se suicider ou qu'on va le tuer, là aussi la caméra tombe en panne. Et puis, en plus de ça, à l'étage où il est censé être gardé, les deux gardiens sont dans une pièce où il réside à exactement 1 mètre. Par exemple, vous, au studio de Radio Courtoisie, c'est la distance entre l'endroit où vous êtes assis et juste à la porte de l'endroit où se trouve la cellule de Epstein. Et dans la nuit en question, les deux intéressés, c'est-à-dire les deux gardiens, un homme et une femme, qui sont censés le surveiller, ne font pas de surveillance pendant 6h30. Et la femme en question, alors on commence à s'intéresser, la gardienne...
C'est-à-dire que les enfants ne font pas de surveillance pendant 6h30, c'est-à-dire que ça a été démontré qu'ils étaient... qu'ils faisaient la sieste, quoi, sans...
Ah oui, non, ils étaient sur Internet, et il y en a une qui faisait ses courses, et l'autre qui était en train de jouer aux courses, ou de regarder un match de... basket ou Dieu sait quoi. Donc tout ça a été 10 minutes par minute. Je ne cite naturellement que des rapports officiels provenant de la justice.
Bien sûr, non, mais c'est pour que nos téléspectateurs, voilà, nos auditeurs comprennent bien d'où on parle.
À la suite de quoi, on va découvrir des choses vraiment curieuses sur la gardienne en question, puisque la banque de cette femme a signalé qu'une semaine avant les événements, pour la première fois, une somme de 10 000 dollars en espèces avait été déposée sur son compte, sans qu'elle dise d'où ça provenait ou pourquoi, ce qui fatalement, pour les histoires de blanchiment, etc., et fait l'objet d'un signalement de la banque. Et ensuite de quoi, elle ne dit qu'elle ne s'était pas déplacée à l'étage ce soir-là. Et une vidéo a fini par être trouvée, non pas de la caméra en face, mais d'une caméra à côté. On voit clairement une veste orange passer à cet étage-là. Et la veste orange, elle est seule avec son collègue à la porter pour des raisons de sécurité. Et par conséquent, on voit une ombre passer et elle dit non, c'est pas moi. Et à la suite de quoi, elle est interrogée. Donc, par la police fédérale qui lui dit « Madame, pour vous expliquer pourquoi vous nous avez dit que vous n'êtes pas sortie de votre bureau et en réalité on vous voit, et deuxièmement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 10 000 dollars ?» Elle répond « Non, c'est pas vrai » et les autres s'excusent poliment « Ah bah pardon, alors bah si c'est pas vrai, madame, rentrez chez vous. »
Et par la suite, tout ça, c'est dans les rapports officiels, Xavier
Hoffer. Bien sûr, bien entendu, tout ça est sur procès verbal, enregistré dans les choses. Donc, cette histoire pue à peu près jusqu'au ciel et si je vous dis les uns après les autres tous les faits bizarres, étranges, incompréhensibles qui sont passés dans cette prison-là, ces quelques jours-là, on en a pour jusqu'à demain matin. Alors, donc, voilà, donc ça continue à pas être vraiment clair.
Alors, sur le fond de l'affaire Epstein, donc au-delà de ce milliardaire playboy qui organisait des... On va le dire grossièrement, mais qui organisait des parties fines avec des personnalités plus ou moins célèbres et des jeunes filles souvent mineures. Comment expliquer, mais la question peut paraître très naïve, mais comment expliquer qu'en réalité, il n'y a eu que très peu de conséquences? Alors évidemment, le poids de la rumeur publique a fait que certaines personnes ont démissionné de leur poste. Encore récemment, on a vu que le chef d'orchestre américain, Leon Botstein, avait démissionné de son poste de président du Bard College en raison de sa proximité avec Epstein. Mais là, on est plus sur... une rumeur populaire, on est plus sur l'opinion publique scandalisée que sur de réelles décisions judiciaires et des réelles décisions politiques. On a l'impression, en fait, ce qui n'est pas qu'une impression, c'est que la justice, au sens international du terme, parce que la justice ne progresse pas sur cette affaire et que, pour l'instant, on a l'impression que cette affaire commence déjà à être enterrée alors qu'elle n'a pas livré 1% de ses secrets.
Ah ben, aux États-Unis, elle est même entièrement enterrée, parce que je vous rappelle que jusqu'à présent, dans l'affaire en question, de quoi s'agit-il? Il s'agit au total d'un millier de jeunes filles ou de jeunes femmes, je dis bien en gros un millier, qui, dans des endroits extrêmement divers, c'est-à-dire la ville de Palm Beach en Floride, ailleurs dans l'État de Floride, dans l'État de New York, dans un État de l'Ouest des États-Unis où Jeffrey Epstein avait son ranch, etc., des jeunes filles qui ont été entendues sur procès verbal. Un procès verbal, c'est une pièce de justice officielle. On dépeint toutes alors qu'elles ne se connaissaient pas les unes les autres. Il y en avait peut-être deux, trois qui se connaissaient par-ci, par-là, mais sur un millier, elles ont toutes décrit les mêmes scènes, toutes décrit les mêmes endroits, toutes pointé du doigt les mêmes personnages. Et jusqu'à présent, sur l'ensemble de ces témoignages recueillis un peu partout, à droite, à gauche, aux États-Unis, après ça, transférés à la police fédérale. La police fédérale aux États-Unis intervient quand un crime est commis avec le franchissement d'une barrière d'État. Si vous coupez votre grand-mère en quatre morceaux dans l'État de Floride et que vous êtes attrapé dans l'État de Floride, c'est la justice de l'État de Floride. Si après ça, vous fuyez dans l'État d'à côté, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, dans le Mississippi, ou dans l'Alabama, à ce moment-là, ça devient la police fédérale, parce qu'il y a franchissement d'un État des États-Unis. Et donc, tout ça a donné lieu à des milliers de témoignages. Sans cesse, les jeunes filles ou les jeunes femmes en question, certaines mineures, quand je vous dis qu'il y en a un millier, c'est que rien qu'à Palm Beach, rien que dans la ville de Palm Beach, Palm Beach, c'est Saint-Tropez, c'est une petite ville, quoi. Il y a 53 témoignages de jeunes femmes dont les trois quarts étaient mineurs. Donc, vous voyez, à l'échelle des États-Unis, on ne parle même pas du reste du monde. Et donc là, jusqu'à présent, aucun de la vingtaine des individus qui sont constamment désignés du doigt par les jeunes filles ou femmes en question, aux États-Unis, aucun n'a même été entendu par la police ou par la justice. Les deux seuls qui ont eu des enquiquinements majeurs à cause de ça, c'est Ghislaine Maxwell et le prince Andrew, qui tous les deux sont plutôt européens ou britanniques qu'américains. Les hauts personnages de la ville de New York, des hauts personnages du monde bancaire ou des milieux chics de la bonne société de New York qui ont été désignés des doigts par les victimes, sont indemnes. Je vous rappelle une seule chose en disant aux personnages, c'est qu'il y a l'homme qui, à l'époque, était le patron d'un des plus grands fonds d'investissement du monde, qui s'appelle Apollo Global Management. Le patron de Apollo Global Management, qui s'appelle Leon Black, a donné en 3-4 ans à Jeffrey Epstein 170 millions de dollars et n'a même jamais eu à s'expliquer sur la provenance de cet argent. Quand on lui a dit « Monsieur, c'est quoi ces 170 millions de dollars ?» il a répondu « Bah, il me donnait des conseils, c'était un brave homme, alors je lui donnais un peu d'argent. » Voilà, on en est. Donc, aux États-Unis, la justice, et ça, c'est le seul vrai scandale, si vous voulez.
Mais est-ce qu'il faut pointer
l'administration
Trump Est-ce qu'il faut pointer l'administration Trump c'est un peu le coin... Ce qu'on entend beaucoup, évidemment, chez les opposants de Donald Trump, c'est que ça ne sort pas parce que Trump est mouillé beaucoup plus que les autres, etc. Est-ce que on peut soupçonner que Donald Trump et son administration fassent tout pour bloquer la sortie de ce dossier, quoi?
Donc, je suis pas vraiment dans l'activité des gens. Quand vous êtes criminologue, vous regardez plus ce que les gens font que ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est l'acte qui compte, parce que seuls des actes peuvent conduire à la justice. Heureusement, pas toujours quand on est de droite, mais les crimes par la pensée sont pas encore trop réprimés dans des états de droit. Hein. Voilà. Donc, pas trop, ça reste supportable. Mais donc, ce que fait M. Trump, notamment au Moyen-Orient, en Iran, est une horreur, et à la fin, on va avoir un régime des Mollahs qui va être renforcé au lieu d'avoir été anéanti. Merci Donald. Mais en revanche, il faut remarquer une chose, c'est que dans cette affaire Epstein, quand Jeffrey Epstein est arrêté au pied de son avion privé en 2019, là, quand il est arrivé, quand il revient d'ailleurs de France sur un aéroport proche de New York, Trump est le président des États-Unis. Un type qui a rencontré 17 fois un prédécesseur de Donald Trump, prédécesseur démocrate, Bill Clinton. Donc, il l'a rencontré 17 fois à la Maison-Blanche officiellement. Il est évident que quand la police fédérale, dont le ministre dépend directement du président des États-Unis, va arrêter un type comme ça, le président en est prévenu. C'est une affaire d'État. Un individu qui a rencontré... Imaginez que je dis n'importe quoi... Bin Laden est rencontré 17 fois Mitterrand, et si on va arrêter Bin Laden en France, le successeur de Mitterrand à l'Élysée, il est prévenu dans la minute, quoi, évidemment, donc il le savait, et c'est quand les démocrates étaient au pouvoir que c'est objectif, c'est des dates, c'est des faits, c'est des actes, c'est un calendrier, c'est quand les démocrates étaient au pouvoir avec d'abord Clinton et ensuite Obama, et enfin pour les procès, etc., Joe Biden, que Epstein a été laissé à peu près avec la bride sur le cou. Et quand il a été arrêté et mis en prison et qu'après ça, il s'est, ouvrez les guillemets, suicidé dans sa cellule, Trump était président des États-Unis. Donc, on ne peut pas dire que c'est lui qui a tout bloqué. Voilà, quoi. Donc, c'est quelque chose de parfaitement clair et établi. Ce qui est choquant et scandaleux dans cette affaire, c'est pas, alors les journaux, je sais pas, pour égarer les gens, pour noyer le poisson, disent « Ah, mais il a déjeuné avec un tel ». On s'en fiche de savoir avec qui M. Epstein a déjeuné avec quelqu'un, c'est pas un crime. En revanche, avoir molesté, violé des mineurs en est un, et que les 19 à 20 individus qui ont été désignés explicitement et dont la moitié des noms a déjà circulé peu ou prou ont été désignés, montrés du doigt, et qu'aucun d'entre eux n'a même jamais été entendu par la police. Et jusqu'à présent, et jusqu'au fait que le roi d'Angleterre, le roi Charles III est désigné de se débarrasser de son frère en le mettant dans un coin. Tout ça, c'est parce que les victimes elles-mêmes et leurs avocats ont hurlé, à juste dans les médias en disant « mais c'est pas normal
ouais. ».
Et les hurlements des victimes aux États-Unis ont eu un effet zéro. Mmh. Madame Hillary Clinton et son mari nous disent « on n'était pas au courant, tu parles ». Alors, si vous me laissez une minute, je vais vous dire pourquoi ils étaient fatalement
allez-y, au courant. Allez-y, Xavier Hofer.
J'ai, pendant des années, participé à des réunions de haut niveau aux États-Unis où participaient aussi des hauts responsables de la défense et de la sécurité des États-Unis. Une fois, comme je m'intéressais aux affaires de terrorisme au Moyen-Orient, j'ai rencontré, puis après ça, eu des coups de téléphone avec un individu au Liban qui était un haut responsable d'une organisation que les États-Unis considèrent comme terroriste. Mmh. La fois suivante, quand je suis arrivé à Washington, moi qui suis rien, qui suis un petit prof, mon copain avec, que je devais rencontrer pour des affaires de terrorisme avait à sa table deux types du FBI qui m'ont dit « Monsieur, avec qui vous avez eu des échanges téléphoniques cet an dernier ?» Et j'étais obligé de me justifier et de dire que j'avais rendu compte au service d'officiel français avant d'avoir rencontré un type qui n'était même pas ministre aux États-Unis, mais qui était deux rangs en dessous des ministres, qui était juste un haut fonctionnaire. Mmh. Vous imaginez que quand vous rencontrez 17 fois Epstein et Clinton à la Maison Blanche, vous imaginez que quand il arrive des pépins à l'homme en question, qu'il est arrêté en 2008 en Floride pour détournement de mineurs, vous pensez que le président n'est pas informé? C'est de la rigolade.
Alors justement,
les gens nient et personne n'a aucun ennui.
On est bien sur Radio Courtoisie, pendant sur l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore et nous sommes avec Xavier Hofer, criminologue avec qui nous évoquons l'affaire Epstein. Alors au-delà, évidemment, même si c'est sordide, au-delà évidemment de ces crimes sexuels, au-delà de ce trafic d'êtres humains, parce qu'il n'y a pas, d'autre mot, c'est vrai que la question qui se pose, bien évidemment, c'est Jeffrey Epstein. Pourquoi un tel réseau? D'où vient sa fortune? En fait, finalement, c'est qui était vraiment Jeffrey Epstein et quel était son rôle, hormis celui d'entremetteur, quoi?
Il y a un terme qui n'est pas souvent employé, mais qui dit tout. On est dans la mondialisation, et dans la mondialisation, les États ne peuvent pas et ne font pas tout. Donc, vous avez une diplomatie officielle avec, par exemple, en France, le ministère des Affaires étrangères, les hauts fonctionnaires, les directeurs d'administration du ministère, et les ambassadeurs et le personnel diplomatique, puis un rang en dessous, non contrôlé par les États, vous avez ce qui s'appelle la diplomatie d'affaires, c'est-à-dire les individus qui mettent en contact, qui facilitent, qui souvent corrompent, et là c'est sans contrôle et hors contrôle, et on peut dire qu'une grande partie de l'activité de Jeffrey Epstein consistait en cette diplomatie d'affaires dans laquelle on monte des coups, on facilite l'obtention de contrats et on a des activités de ce niveau-là. Mmh. C'est notamment ce qu'il faisait. Alors, je ne crois pas une seconde au fait qu'il ait été piloté par les services de renseignement officiels d'un État, quel qu'il soit, l'État américain, l'État d'Israël, l'État...
Il y a eu effectivement une rumeur qui faisait état que Jeffrey Epstein serait un agent du Mossad. En tout cas, c'est une rumeur qu'on a entendue un petit peu partout.
Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma carrière, dont des représentants du service en question, comme le service de renseignement français, comme les Britanniques, comme les Américains, comme dans tous les États de droit, ces gens-là sont soumis au contrôle d'inspection parlementaire. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. En plus de ça, moi, je peux vous dire simplement, bien entendu, dans les services français, j'ai fréquenté, vu et pas mal de monde. Si jamais je vais voir un de ces hauts personnages en disant « alors j'ai un coup terrible, on va pouvoir faire chanter les gens parce qu'il y a un type comme ça, il saute des petites filles, etc. » Le mec me conseille, mon interlocuteur me conseille d'aller me faire soigner et il m'envoie pour 3 mois à la campagne pour retrouver mon calme avec des petites gouttes. Quoi. Pourquoi ? Parce qu'un service de renseignement officiel, à 100%, il vit de sa réputation. Comment, au nom du ciel, pouvez-vous recruter des sources si vous avez la réputation d'être une boîte où on saute des petites filles? C'est naturellement tout à fait impossible. Et ça ne marche pas comme ça. En revanche, un cran en dessous, la diplomatie d'affaires, on peut regarder ailleurs et n'importe quoi peut s'y passer.
Valentin Gore, vous avez une question ou une remarque à faire à Xavier
Rochat. Oui, une question peut-être pour conclure. Ce qui est fascinant chez les Américains, c'est évidemment un pays de complot. On pense à l'affaire Kennedy. Et puis en même temps, c'est leur goût de la vérité. Parce que les archives finissent toujours par sortir. Elles sont sorties, même si Donald Trump a un peu tardé à les faire sortir. Elles sont sorties avec ces fameuses lignes noires. On s'en souvient, ces milliers de documents. Comment vous analysez, monsieur, ce rapport des Américains à ces grandes affaires qui, quand même, structurent leur vie politique, hein, malgré tout, parce que c'est un pays très violent, et ces rumeurs, ces étapes. Vous l'avez dit en même temps, cette affaire qui semble aujourd'hui close, alors qu'il reste des zones d'ombre absolument immenses.
Deux dimensions. Premièrement, la justice américaine, dans sa totalité, est un immense bazar. Encore aujourd'hui, le président Kennedy a été assassiné en 1963. Encore aujourd'hui, des fois, dans un tiroir d'un bureau de la justice fédérale au fin fond de l'Idaho, il y a un type qui ouvre un tiroir et qui trouve des pièces de cette affaire-là, genre 50 ans ou 60 ans après. Voilà, donc c'est le bazar. Pourquoi ? Parce que c'est un millefeuille et qu'il y a la couche de la ville, la couche de l'État, la couche fédérale, mais la couche fédérale de Washington, c'est pas la couche fédérale de New York. Donc, si vous m'autorisez à parler avec la rude franchise du militaire, c'est le bordel. Hein, premièrement. Deuxièmement, même si naturellement ça n'a rien à voir avec la partie confessionnelle de la religion, de même que historiquement la culture française est sociologiquement catholique, les États-Unis sont un pays sociologiquement protestant, parce que l'initial est toujours le plus fort, on sait ça depuis Héraclite, hein, c'est pas nouveau, et donc les Founding Fathers étaient des calvinistes, et la confession se fait dans le temple, devant les fidèles qui sont à la prière, elle se fait pas dans un confessionnal.
Le grand déballage, quoi.
Donc, c'est ce qui explique qu'il y a toujours comme ça des grands moments de vérité. C'est la raison pour laquelle, alors je ne sais pas si ça vous menace, mais c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais, moi j'ai énormément contribué à des réunions aux États-Unis avec des collègues, mais je n'ai jamais accepté de travailler pour eux, c'est-à-dire de toucher un seul centime, parce que si vous faites ça en douce, un jour, il y a un type qui aura une grande crise et qui, devant le Sénat américain, dira « Oui, j'ai financé M. Roffer et puis machin, etc. » Donc, il vous balance toujours. Donc, il ne faut jamais. Il faut rester dans une situation où il n'y a pas de conflit d'intérêt avec eux, vous voyez, parce qu'il finit toujours par vous balancer. Alors ça, c'est la culture de la confession ouverte devant le temple, quoi, devant le pasteur, c'est bah, ça.
Avec, on y est toujours. Avec le paradoxe où, au train où cela va, on aura peut-être plus d'informations sur les remous de l'affaire Epstein en dehors des États-Unis que dans les États-Unis, puisque on voit que là, en tout cas dans certains pays européens, la justice commence un petit peu à s'activer. D'ailleurs, très amusant, la justice française s'est souvenue brusquement qu'effectivement, elle avait le dossier qui dormait depuis des années dans un plat dans un tiroir.
C'est pas la plus active, oui, c'est ça.
Non, c'est pas la plus active, mais on voit même la famille royale de Norvège qui a été grandement menacée. Mais c'est vrai qu'encore une fois, est-ce que on peut espérer décemment avoir peut-être pas le fin mot de toute cette affaire, mais en tout cas d'avoir des choses qui bougent, quoi.
Alors, non, pour la France, vous savez, à la Pacifique Mythologie, j'ai formé énormément de gens qui, après ça, sont devenus magistrats. C'est une profession honorable que celle de magistrat. Simplement, en France, ils n'ont pas les moyens de bosser. On a une justice de clodo, quoi. Ils n'ont pas d'argent. Et à l'heure actuelle, le manuel dans lequel il y a toutes les inculpations possibles et imaginables de la justice française, tout ce à quoi on peut condamner un individu, cet livre-là, qui est publié chez Dalloz, il faisait 1500 pages en 2017. Aujourd'hui, il en fait 2200 et il n'y a pas un magistrat de plus. Donc, ils ne peuvent pas bosser. Mmh. Et pour l'affaire Epstein, quand elle est arrivée en France, les magistrats ont fait leur boulot, ils ont entendu des gens, ils ont ouvert des informations. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Brunel, a été arrêté dans ce cadre-là. Mmh. Et il se trouve que toutes les plaintes qu'ils ont reçues émanaient de femmes à qui il était arrivé effectivement des horreurs, mais 30 ou 40 ans avant, dans les années 80, et qu'aucune des plaintes n'était plus recevable parce qu'elles étaient foreclose, il y a des délais pour la justice de passer, au bout de 15 ans ceci, au bout de 20 ans cela, au bout de 5 ans les infractions mineures, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, et on était hors possibilité. Donc ce qu'on fait à l'époque, c'est que les magistrats ont étudié des cas, ont ouvert des informations et les ont refermées, parce qu'elle n'était plus recevable. C'est-à-dire, la justice là, a fait son travail. Il y a eu un rapport final en disant, ben non, on ne peut pas, on le regrette. Et donc, la raison pour laquelle le dossier n'a pas été fermé, c'est que si jamais demain matin, il y a quelqu'un à qui Epstein a fait des horreurs en France, par exemple, la dernière fois où il est venu en 2018 ou 2019, là, le dossier sera réouvert. Mais on ne peut pas forcer la justice à suivre des cas qui ne sont plus recevables.
Merci, merci beaucoup Xavier Hofer, criminologue, auteur entre autres de ce livre passionnant aux éditions du Cerf, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Merci à vous et à très bientôt. Restez avec nous chers auditeurs, puisque dans quelques instants, nous accueillerons le journaliste Éric Morillo, co-auteur avec Michel Goldstein de ce livre « Les intouchables de l'audiovisuel public ». C'est le livre événement de la commission parlementaire événement. À tout de suite.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Vous êtes de retour dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore et nous recevons Éric Morillo, journaliste, animateur de la chaîne YouTube Les Incorrectibles. Pardon, bonsoir.
C'est dur à prononcer. C'est...
pas facile le soir surtout.
Bonsoir,
tard le soir et tôt le matin. Co-auteur avec Michel
Goldstein. Même Nagui n'arrivait pas à le prononcer.
Ah oui, c'était un peu exprès, oui.
Co-auteur avec Michel Goldstein, en tout cas, de ce livre, donc les intouchables de l'audiovisuel public. Donc Michel Goldstein, ancien rédacteur en chef de France Télé, ancien candidat pour la présidence.
Qui a travaillé 30 ans à France Télévisions, donc il connaît toutes les arcanes du groupe. Ouais.
Un vrai connaisseur. Donc cet ouvrage, on a presque envie de dire, donc il tire les premiers enseignements donc de la commission parlementaire d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc vous serez en bonne compagnie d'ailleurs avec Valentin Gore, puisque notre confrère a particulièrement travaillé lui aussi sur cette commission. Tout d'abord, on est un peu ébahi par votre réactivité, Éric Morillo, puisque ce livre a été mis sous presse, on le suppose, même avant la diffusion du rapport.
L'encre est encore chaude.
Du rapport parlementaire. Donc pourquoi avoir voulu aller aussi vite déjà pour traiter cette affaire, Éric Morillo ?
Alors, pourquoi avoir voulu aller assez vite? Ben, on a voulu aller assez vite pour plusieurs raisons. D'abord, il n'était pas garanti que le rapport de Charles Lalonde puisse être rendu public. Donc,
absolument,
on s'était dit déjà qu'il fallait laisser une trace. Et il y avait un petit débat sur la possibilité de laisser des vidéos online, alors que sur le livre, on est théoriquement un peu plus protégé. Bon, ça, c'est le premier point. Non, et l'autre point, il est surtout parce que, d'abord, c'est un sujet qui m'a passionné et m'a passionné un peu par hasard, puisque j'avais reçu, justement sur cette chaîne YouTube que j'anime, Les Incorrectibles, j'avais reçu en décembre dernier Charles Lalonde, qui m'avait accordé un très long entretien, et c'était d'ailleurs une véritable rencontre, parce que à l'époque, avec tout le respect que je lui porte, qu'on lui porte, il n'était pas devenu la star qu'il est devenu aujourd'hui.
Ah non, il a connu la célébrité en quelques semaines.
Et je pense à mon très modeste niveau, j'y avoir un peu participé parce que, enfin, plutôt c'est lui, bien sûr, c'est pas moi, mais je veux dire, je lui ai tendu un micro où il a dit quelques vérités concernant Nagui qui n'avait absolument rien de condamnable, puisqu'il a juste dit que selon lui, il se pourrait que Nagui soit l'animateur qui s'était le plus enrichi sur les 10 dernières années sur le service public. Donc en soi, il n'y avait rien de condamnable et de diffamatoire là-dedans. Et contre toute attente, eh ben, c'est Nagui qui a donné un écho, si vous le voulez, à cette émission et à ses propos tenus par Charles Lalonde, en postant très peu de temps après sur les réseaux sociaux.
Il appelle Charles-Henri Lalonde,
Charles-Henri, en l'accusant d'être contre les véganes, égyptophobe. Enfin, c'était aussi pathétique que ridicule. Vraiment, hein, non, vraiment, là, je le dis avec toute l'estime que je peux avoir pour un animateur du service public. Suivez mon regard. Mais vraiment, c'était vraiment pathétique, puisqu'il n'y avait évidemment aucun sous-entendu ni raciste ni anti-vegan, encore moins. Enfin voilà, donc
je laisserai la parole à Valentin Gore avec qui vous, je suis sûr, vous avez plein de choses à échanger.
Et donc c'est pour ça que j'ai été aussi vite, parce que juste après, à la suite de ça, je me suis dit mais c'est quand même incroyable pour que tous ces gens du système, parce qu'il n'y avait pas que lui, il y avait toute la caste, puisqu'on avait hésité d'ailleurs à appeler ce livre La Caste de l'audiovisuel public, toute la caste s'est mise en branle et a répondu avec tellement de susceptibilité, de sensibilité, que je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose à cacher pour être aussi nerveux.
Alors,
j'ai rencontré Michel Goldstein.
Vous avez complètement anticipé ma prochaine question, parce que je voulais insister sur ce mot. Alors, il figure pas dans le titre, mais il figure dans la première partie de votre ouvrage, ce terme de caste. Pourquoi ce terme très fort?
Ah bah, c'est vraiment le terme le plus approprié qui puisse s'appliquer à la situation et à ce groupe de personnes qui sont tous, pour la plupart, issus des mêmes formations, c'est-à-dire des grandes écoles, en l'occurrence d'ingénieurs, et qui sont dans les mêmes réseaux, qui vraiment sont dans le même entre-soi, qui est éminemment dénoncé dans ce livre par Michel et moi. Et puis au-delà de ça, ce qu'on dénonce, c'est justement tout le monde est très nerveux à l'idée qu'il puisse peut-être y avoir une privatisation. Mais tout le fil directeur et le fil rouge de ce livre, c'était de dire que finalement la privatisation, elle était déjà de fait activée, puisque une caste s'était complètement appropriée, selon nous, le service public. Et donc c'est cette caste qu'on dénonce. Alors on revient donc dans ce premier chapitre, en effet, sur l'accession au pouvoir, enfin à la présidence de France Télévisions, donc pour 3 mandats, ce qui s'est jamais vu, de Delphine Arnaud. Mais on a un très long chapitre justement sur justement son parcours, par qui elle a été aidée.
Vous lui accordez de nombreuses pages, notamment évidemment ses liens familiaux. Justement,
y a pas que ça, hein.
pour vous, Delphine Ernotte, quelque part, elle incarne un petit peu cette dérive pour vous?
Elle concentre à elle seule vraiment tout ce qu'il y a de plus détestable, moi j'ose le dire, de cet entre-soi parisien, on peut le dire, mais au-delà de ça, de cet entre-soi, je vous dis, de cette caste qui, en effet, se répartissent les postes, et puis quand on a le malheur, c'est surtout ça, parce que l'esprit de caste, c'est surtout un esprit qui, dès qu'on leur pose des questions, somme toute légitimes, je rappelle quand même qu'il s'agit d'argent public, si on parlait de TF1, de Canal+, ou d'M6, il n'y aurait pas de sujet. Là, on parle d'un service public qui est financé par vous, par moi, par les Français. Et donc, à partir de là, on est en droit de poser des questions. Bah non, il semblerait que pour ces personnes, poser des questions, c'est déjà être d'extrême droite.
Valentin Gore.
Alors, est-ce que vous avez été surpris, monsieur, vous avez dit que la publication du rapport n'était pas certaine, elle a eu lieu. Est-ce que vous avez été un peu surpris des conclusions de Charles Lalonde, que ses adversaires, notamment à gauche, attendaient en défenseurs zélés de la privatisation totale du service public, qui finalement a plutôt proposé des perspectives de réforme, de réduction du service public, de rehaussement des ambitions, notamment en matière de culture, mais qui ne propose pas la privatisation complète du service public. Est-ce que ça vous a surpris ?
Non, ça ne m'a pas surpris, d'autant plus qu'il l'avait dit d'ailleurs à toutes les interviews dans lesquelles il était présent, y compris donc chez moi en décembre dernier. Il avait dit que tous ses détracteurs n'arrêtaient pas de dire qu'il avait une arrière-pensée, un calendrier de futur ministre de la Culture de Jordan Bardella, ce qui est peut-être probable, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, pour ce qui est de la privatisation, lui, à titre personnel, il n'y était pas favorable. Donc ça, dès le début, il s'en était défendu, si tant est qu'on ait à s'en défendre, puisque après tout, on pourrait...
tout à fait, c'est une position entendable. Oui.
Voilà, moi, à titre même personnel, vous voyez, c'est un des sujets
j'allais vous poser la question.
On n'est pas d'accord avec mon co-auteur, puisqu'on a, c'est ça qui vraiment la force du livre, c'est que le fait d'avoir signé ce livre avec Michel Goldstein, qui, je le rappelle, a passé 30 ans au sein de France Télévisions et qui connaît par cœur les arcanes du groupe, est un encore plus ardent défenseur du service public que moi. Mais moi, à titre personnel, non, je suis pas pour la privatisation intégrale. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'autant de chaînes du service public, autant de stations de radio du service public? Non. À partir de là, c'est juste... Mais au-delà de ça, le point sur lequel aussi on voulait revenir par rapport donc aux conclusions de Charles Lang, c'est que... En effet, c'est un travail, je le dis, remarquable. Mais qu'est-ce qui nous a incité aussi à nous dépêcher, c'est vrai, d'écrire ce livre? C'est qu'on avait envie que le plus grand nombre de Français puissent avoir accès à ce qui s'était dit pendant ces 6 mois de commission d'enquête, puisqu'il y a eu près de 70...
En tout cas, jamais un rapport n'a été autant téléchargé, je crois, sur le site de l'Assemblée nationale.
Quand il n'y avait pas de bug.
Ouais, c'est ça, exactement.
Puisque quand le site a planté.
Oui. Beaucoup de temps pour y parvenir. Mais en effet, ce qu'on voulait, c'était d'abord, que, avec tout le respect, encore une fois, que je dois au travail remarquable, je le dis encore une fois, si on n'avait pas entendu de Charles Lang, le rapport de Charles Lang, c'est 551 pages, donc près de 600 pages. Donc je doute, encore une fois, que la plupart des Français puissent aller consulter, quand il n'y a pas de bug, en effet, sur le site de l'Assemblée nationale, ce rapport. Donc on s'est dit, avec mon éditeur, donc à qui je rends aussi hommage, puisqu'il a été formidable, donc Damien Seriex de l'Artilleur, on s'est dit, il faut qu'on donne accès au plus grand nombre de Français à ce rapport. Et donc la meilleure façon, c'était de faire, non pas, alors c'est là où je me différencie un tout petit peu de la mission et de la fonction de Charles Lang. Charles Lang, il est député de la République, il est rapporteur d'une commission d'enquête, il a fait son job, il a pondu un rapport. Voilà. Il se trouve que c'est pas tout à fait le même exercice que celui que j'ai pratiqué avec Michel Goldstein. Michel Goldstein et moi, nous sommes journalistes. Donc nous, on n'a pas fait de résumé des conclusions du rapport de Charles Lang. On a fait, selon nous, avec notre regard, si vous voulez, un résumé des étapes les plus marquantes de cette commission d'enquête, parce que tout n'était pas forcément à relever, il faut être honnête. Et voilà, donc nous, on a mis l'accent sur des points qui étaient, selon nous, les plus importants. Et on a même été plus loin, puisqu'on a fait, je ne sais pas si vous avez tout relevé, mais on a fait quelques révélations, et notamment à quelques jours du Festival de Cannes. On est revenu aussi sur cet épisode où, en effet, on a réussi à obtenir des informations, puisque c'était ça aussi ce qui est formidable suite à l'entretien que j'ai réalisé de Charles Lang. Beaucoup de gens sont venus spontanément me contacter, aussi bien des gens de l'extérieur que de l'intérieur.
Alors, je voulais pas poser ces questions-là à la fin, mais justement, alors concernant par exemple le Festival de Cannes, on voit certaines annonces tomber, on voit que finalement ce sera plus des énormes suites, mais on va aller dans les hôtels un petit peu plus modestes théoriquement.
Il faut s'arrêter, on passe du Majestic au vrai d'Avignon.
Il y a de plus en plus de, on voit d'ailleurs l'embauche de Eugénie Bastier récemment, a priori pour la prochaine émission présidentielle de France 2. On a vu cette émission se monter sur France Info avec Nathan Devers et Paul Melun.
Elle est supprimée,
elle vient d'être supprimée par Philippe Corbet. Est-ce que c'est peut-être pas ça la
démocratie devant l'éternel?
C'est quand même pas une conséquence de l'affaire Lang. Alors on ne sait pas si effectivement l'audiovisuel public va être totalement réformé, mais est-ce que ça n'a pas suffi déjà comme un espèce de coup de semonce pour forcer aussi le service public faire montre d'un peu de bonne volonté, d'accorder plus de place à la contradiction et à justement de casser cette espèce de le monopole de cette caste.
Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, donc on verra bien.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Voilà, exactement. Donc on verra bien aux actes. Il se trouve quand même que de l'avis de tout le monde, aussi bien observateur critique pour ou contre Charles Lang, je pense qu'il y aura un avant et un après cette commission d'enquête. Ça, c'est évidemment une évidence, si je puis dire, parce qu'on voit l'appétence France et si vous voulez l'intérêt que les Français consacrent à ce sujet qui est absolument phénoménal. Nous-mêmes, on est, alors je suis fier d'ailleurs de vous l'annoncer, puisqu'on est depuis la sortie du livre hier, on est en tête des ventes, donc c'est juste absolument sidérant, quoi. Je suis, avec encore une fois tout le respect que j'ai pour mon éditeur, voilà, c'est pas un des plus grands éditeurs de la place. On a été reçu uniquement sur les médias du groupe Bolloré, donc CNews, donc Europe 1 et donc.
Vous n'avez pas été invité par France Inter encore.
Non, c'est étonnant. C'est pourtant, on leur a envoyé, je crois, le livre. Il faut que je me renseigne là-dessus. Mais voilà, donc écoutez, moi, je serais ravi même de débattre parce que ce qui est formidable, c'est que ces gens-là, ils ont une conception toute particulière de la démocratie et des échanges, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, pour ou contre la privatisation, moi, je pense qu'il peut y avoir un véritable débat là-dessus. On a le droit de ne pas être pour la privatisation tout en étant encore critique aussi du service public. Mais non, eux, c'est où on est avec eux à 100%, où on est avec la caste, où on est contre la caste. Et quand on essaye d'être contre la caste, en général, je pense qu'on n'a pas facilement des invitations dans leur salon, quoi.
Alors, on a beaucoup parlé, effectivement, des salaires absolument mirobolants. D'ailleurs, ce chapitre...
Ils ne sont finalement pas publiés.
Ils ne sont pas publiés, mais néanmoins, vous remettez quand même certains indices. Ce fameux rapport de Cour des comptes où Delphine Arnaud explique qu'elle a baissé les coûts. En réalité, elle n'a fait que baisser.
Mais qui s'est quand même octroyé 98,5% de primes.
Oui, c'est-à-dire que le nombre de salariés a baissé, mais par contre, la masse salariale, elle a continué de monter. C'est-à-dire qu'on a des cas de pantouflage absolument incroyables. Sinon. Au fond, c'est quoi? C'est une tradition qui dure depuis des décennies. C'est la sensation d'être intouchable. C'est la confiance envers l'argent magique. Qu'est-ce que c'est un mélange de tout
dire
ça?
Tout ça, mon général. Ouais. La caste est d'une impunité totale. Hein. Ça renvoie d'ailleurs. On a pas mal de références historiques et de citations dans notre livre. Et nous qui sont vrais, hein, contrairement à un certain président qu'on a attribué des fausses.
C'est citations de Cicéron.
Voilà, dans sa rapport. Donc nous, on a des vraies citations et c'est ce qui fait peut-être une différence notable. Et il se trouve en effet, eh bien que la caste, que vous dites très justement, se sent totalement intouchable. Donc, nonobstant les résultats catastrophiques relevés par la Cour des comptes au niveau financier, tout va très bien, Madame la Marquise. Hein. C'était ça, si on pouvait résumer l'état d'esprit de Delphine Arnaud. Et encore une fois, donc je reviens à cet épisode de Cannes, puisqu'on est à quelques jours du festival. C'est absolument édifiant ce qu'on a relevé. Donc, vous le disiez, les hôtels, ils sont passés. Alors, Christophe Tardieu, le secrétaire général de France Télévisions, nous a dit de manière très louable en audition qu'ils avaient décidé de se serrer la ceinture. Donc, moi, je dis ironiquement... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trous dans la ceinture, ou alors il est très obèse, mais en tout cas, voilà, ils sont passés du Majestic au Gré d'Albion. Et il y a quelques jours, je me suis amusé, puisqu'il se pourrait peut-être, vous voyez, il y a même des gens qui sont hostiles à la casse, qui peuvent aller à Cannes parfois faire leur boulot. Je vais voir si je peux peut-être organiser une ou deux interviews incorrectes, comme j'essaye de le faire dans mon émission. Et j'ai regardé, donc j'ai été sur le site de référence, bon, dont je ne vais pas faire la pub ce soir, mais je pense que tout le monde l'aura reconnu, on peut centraliser tous les hôtels disponibles. Et là, j'ai été taper Gré d'Albion, voilà, du 12 au 23 mai 2026. Et donc, il reste encore quelques chambres, d'ailleurs, je suis assez surpris. Une petite chambre sur le côté ville, en fait, pas côté mer. Bon, on est passé du Majestic au Gré d'Albion. Alors, je m'amuse à dire que c'est un petit peu comme si on était passé d'une Ferrari à une Porsche. C'est-à-dire qu'on est passé de 1 700 € la nuit au Majestic à seulement, si je puis dire, un peu plus de 1 600 € la nuit au Gré d'Albion, puisque la chambre est à la chambre côté ville et du 12 au 23 mai prochain à 19 000 €. Donc, voilà. Je trouve que déjà ça parle de soi-même. Et d'autre part, il y a cette facture qui est absolument édifiante. Moi, j'aimerais un instant revenir à cette facture qu'on révèle, puisqu'on a réussi à se la procurer. Et donc, il fallait vérifier un petit peu que tout ça était évidemment vrai, puisqu'on a eu beaucoup d'informations. Il fallait trier, parce que c'est un gros boulot, voilà tout ce qu'il y avait à trier. Et donc, on révèle donc dans cet ouvrage donc la facture du Majestic qui est adressée. C'est là où c'est un peu subtil, à une société qui s'appelle Global Business Travel, qui est l'agence, en gros, l'agence de voyage mandatée par France Télévisions pour faire voyager ses cadres. Et dans cette facture, il y a la mention des arts. Et donc, en général, quand vous réservez dans un hôtel et que vous déposez des arts, c'est que vous y êtes pris un petit peu à l'avance. Donc, ça met à mal toute la version, parce que, en gros, ils ont tous menti comme des arracheurs dedans lors de cette commission d'enquête, alors qu'ils avaient prêté serment. C'est ça qui est fou. Il y a le syndicat CGC, dirigé par Jean-Jacques Cordival, donc, Cordival qui a décidé de mener l'action en justice. Mmh. Et donc,
il s'en est pris une aussi d'action en justice d'ailleurs pour.
Oui, mais je crois qu'ils. Là, je pense qu'ils sont. Ils ont affaire à quelqu'un qui. Je
qui
pense
a décidé qu'il n'allait pas lâcher le morceau.
Voilà, et je pense que là, voilà, on va être. Mmh. On va pas être à l'abri de révélations. Et donc, voilà, donc en gros, je pense que cette affaire de Cannes est toute symbolique parce que beaucoup de gens le disent, oh, finalement, ça peut être un peu des magots, tu penses bien que Madame Ernaud ne va pas aller dormir. Bon, bah quand même, non, si elle précise bien qu'elle voyage en seconde classe, elle était peut-être pas obligée d'aller. Et puis d'aller donc au Majestic, et en plus il y a tous les noms des personnes, notamment Renaud Vankim, Guillaume Lacroix, qui sont les producteurs qui ont déjà en budget de production près de 2,5 millions d'euros je crois, ou même un peu plus encore pour faire la cérémonie d'ouverture, de fermeture. Bon, et en plus de ça, eh bien, on apprend voilà, sur cette facture qu'en plus on leur payait des chambres à ce prix là ça devait pas être suffisant le budget de prod, quoi.
Valentin Gore.
Alors vous utilisez ce mot de caste, je me souviens que Vincent Bolloré lui-même l'avait utilisé beaucoup pendant sa propre audition pour dénoncer à la fois la caste à laquelle il avait mis fin à Canal+, et puis un peu aussi évidemment celle de France Télévisions.
Le même Kim, d'ailleurs, c'est amusant, qui a été remercié par Vincent Bolloré.
Avec les mêmes méthodes, effectivement, voilà. Un attachement à Cannes tout
il
particulier.
Il a bien bon lien sur France
Télévisions. Absolument, absolument. Vous êtes un représentant, on en parlait tout à l'heure, de ces nouveaux médias. Qui montent en flèche, hein, à gauche, à droite, partout, qui sont tout à fait en éclosion sur le web. Est-ce que vous pensez pas, finalement, qu'à terme, et c'est déjà un peu le cas, la télévision linéaire, quand même, est-ce que cette commission, c'est pas aussi un débat d'un autre temps, dans le sens où la télévision linéaire, elle a plus beaucoup d'avenir?
Alors, c'est une vraie, merci de poser cette question, c'est une vraie belle question, parce que moi-même, à titre personnel, je n'arrête pas de regarder un peu les médias mainstream depuis que j'en suis, on va dire, parti, enfin que j'ai fait un pas de côté, parce qu'on ne sait plus très bien ce qui va être demain, ce qui vont être demain, ce que vont être demain les médias mainstream. Parce que ça se trouve, les médias qualifiés d'alternatifs aujourd'hui, moi je ne cesse de dire que ce sont peut-être les médias mainstream de demain. Ouais. Quand on voit la courbe descendante des audiences, et puis la courbe vieillissante aussi des audiences, puisqu'on voit aujourd'hui la moyenne d'âge de quasiment toutes les chaînes de télévision en France, c'est plus de 55 ans. Donc voilà, c'est pas non plus être irrévérencieux pour nos aînés, mais enfin ça prouve qu'il y a quand même un gap, un hiatus entre la jeunesse et donc la télévision qu'ils ne regardent plus du tout. Donc à partir de là, c'est formidable, parce que moi j'ai été remercié, j'ai aucun souci à le dire, je l'avais même dit sur cette antenne, j'ai été remercié de médias qualifiés de mainstream, et donc à un moment donné je pensais qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'avenir, je me suis lancé un peu par dépit. Bon, il y a beaucoup de gens qui me saluent et qui me disent parfois oh, c'est cool, bravo pour votre courage. Non, j'aurais aimé avoir eu du courage et le faire par totale adhésion au départ. Non, je l'avais fait par dépit, parce que j'avais plus aucun média qui voulait de moi, et contre toute attente. Là, c'est phénoménal, donc il y a un peu une justice immanente, j'ai envie de dire. La greffe a pris, et donc je suis en effet aujourd'hui à la tête d'une chaîne YouTube qui a quand même pas loin de 400 000 abonnés, qui fait des scores qui n'ont rien à envier, même beaucoup plus importants que certaines chaînes de la TNT. Donc c'est vrai qu'on est devenus nous-mêmes des contre-pouvoirs, et je pense que c'est ce qui participe au succès de cet ouvrage, qui était, je vous le dis, en tête des ventes déjà 2 heures seulement après sa mise en vente, et qui est déjà en réimpression, puisqu'on est en rupture de stock. Donc c'est absolument époustouflant, quoi. Et ça, avec seulement, je vous le disais, bon, l'appui de CNews, d'Europe 1 et du JDD, mais enfin bon, voilà, aucun autre, et maintenant de Radio Courtoisie, que je remercie. Mais voilà, et en dépit de ça, voilà, on est en tête des ventes. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, plus rien n'est figé, qu'on peut se battre à tous les niveaux, et tant mieux, voilà.
Et surtout, c'est vrai que ce livre aussi parle de pratiques complètement d'un autre temps. Enfin, il y a le cas d'Arnaud Ngatcha qui est quand même absolument dingue, directeur des opérations spéciales au sein de la direction des antennes et des programmes, et qui est depuis. Alors je regardais dans votre livre pour bien vérifier, mais effectivement, il est depuis 2020 élu au Conseil municipal de Paris, et aujourd'hui adjoint au maire à la francophonie et à l'international. C'est-à-dire qu'il cumule deux fonctions qui sont, vous le dites dans votre livre, a priori bien évidemment à temps plein, mais surtout, ces deux fonctions qui ne sont pas censées se côtoyer.
Déjà,
par
même
principe,
en termes de temps, je sais qu'Arnaud Ngatcha semble remarquable intellectuellement et doit pouvoir faire en une journée ce que 4 personnes arrivent à peine à faire.
Ça existe, mais, pourquoi pas.
Oui, peut-être, hein, mais sans doute, il doit même pas dormir. Je pense que c'est ça le truc, mais en tout cas non, là on y consacre une très longue partie dans cet ouvrage, parce qu'en plus, non content d'avoir eu des informations, on a aussi été sollicité bon nombre de personnalités spécialistes de différents sujets. Donc par exemple, sur le cas d'Arnaud Ngatcha, en effet, on a consulté 2 avocats dont je tairai les noms, spécialistes du droit du travail, qui nous ont dit que tout ça était mais totalement en dehors des clous, et donc là j'aurais trop peu de temps pour le développer, mais on a plusieurs pages consacrées à ce cas bien précis qui montrent que c'est tout à fait en infraction totale et du code du travail et de la mission du service public.
Et de la déontologie, puisqu'il est à la fois...
Mais ça, la déontologie, la caste, elle s'en contrefout comme de l'an 40. Hein.
C'est Valentin Gore.
Non, bien sûr, vous avez cité cet exemple. Je crois aussi que, vous l'avez dit, on va en dire un mot, la personnalité de Nagui a beaucoup retenu votre attention, hein, avec cette agressivité. Oui. Il y a eu Xavier Niel aussi. Quand vous expliquez, pour reprendre cette expression de casse, cette réaction souvent violente même, hein, quasiment face à Charles Aloncle pendant ses commissions d'enquête.
J'ai été absolument, mais je vous le dis, sidéré. Je pensais même, le cas de Xavier Niel m'a encore plus, si je puis dire...
Oui.
Estomaqué, parce que là vraiment on a franchi, monsieur a donc invoqué le fait qu'il ne pourrait pas se présenter parce qu'il avait des obligations, donc on a, selon les dires et les écrits de quelques autres médias, on a découvert qu'il se serait trouvé peut-être à cette époque dans une station de ski, donc on se demande quelles étaient les obligations, si c'était prendre un télésiège ou un téléski, enfin ça a été assez impressionnant, et ce monsieur arrive avec d'ailleurs pas seulement lui, aussi bien Mathieu Pigas,
il
semblerait que contrairement à ce qu'ils disent, il aurait peut-être été à Cannes, y compris pendant le festival, à d'autres moments, alors qu'il disait qu'il ne fréquentait sans doute pas les pinces-fesses en ville, voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que ces gens-là, encore une fois, sont totalement symptomatiques de la caste. Vraiment, pour Arnaud Pigas, voilà, il a dit qu'il mettrait tous ses médias au service d'un combat contre la dite extrême droite. Bon, encore une fois, il a le droit, sauf que là, on parle de service public. Mmh. Voilà, ces gens-là sont...
Mais ce que vous dites est très important, parce que c'est ça, moi, qui me frappe, justement, depuis le début de cette affaire, c'est que, on peut parler effectivement de guerre d'opinion entre la gauche, la droite, etc. Le problème, c'est que là où le combat en plus est complètement faussé, c'est que nous finançons le vaisseau mère, on va dire, en plus du combat de la gauche, quoi. En plus, enfin, on parle du service public, on ne parle pas d'un média de gauche orienté, on ne parle pas d'un média dont le propriétaire serait Mathieu Pigas ou Xavier Niel ou quoi d'autre. C'est là, on parle de médias dont nous sommes les propriétaires.
Eh bien oui, eh bien, c'est pour ça que je dis que la caste, on le dit avec Michel Goldstein, et en lisant ce livre, il n'y a même pas besoin de le dire, ça saute aux yeux. La caste a privatisé le service public. De toute façon, il y a un projet, parce que, en plus, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de relever qu'on a beaucoup insisté sur des questions de gestion lors de cette commission d'enquête, avec évidemment des manquements tout à fait avérés et édifiants. Mais ce qu'on a voulu avec Michel Goldstein aussi, relever et les points sur lesquels on a voulu aussi mettre porter l'attention, c'est qu'il y avait, selon nous, et là on n'hésite pas à le dire, des accusations très graves, on considère que la mission du service public a été dévoyée à des fins idéologiques, c'est-à-dire qu'il ne s'en cache même pas. Laurence Bloch, elle dit clairement que le projet de Radio France, parce qu'on parle que de France Télévisions, mais il y a aussi un chapitre, a été dévoyé, c'est une radio qui a pour fondement le progressisme, le wokisme, et donc il y a plusieurs chapitres là-dessus.
Voilà, nous ne voulons pas montrer le monde tel qu'il est, mais tel que nous voudrions qu'il soit.
Pour vivre ensemble, il faut qu'on voit ensemble, ça c'est très fort, c'est Stéphane Cibo-Gomez, un philosophe devant l'éternel.
Voilà, ça c'est le service public. Merci Éric Morillo d'avoir
merci
été avec nous
pour
merci présenter
à
donc ce livre, Les Intouchables de l'audiovisuel public aux éditions L'Artilleur. Merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles à cette émission. Il y a jeudi prochain pour un nouveau Restons Courtois animé par Valeurs Actuelles. À bientôt.
Ça suffit maintenant.